Chapitre 4 Le rideau de fer. La tâche est parfois ingrate de raconter la vie d'Arsène Lupin, pour ce motif que chacune de ses aventures est en partie connue du public, qu'elle fut à son heure l'objet de commentaires passionnés, et qu'on est contraint, si l'on veut éclaircir ce qui se passa dans l'ombre, de recommencer tout de même, et par le menu, l'histoire de ce qui se déroula en pleine lumière. C'est en vertu de cette nécessité qu'il faut redire ici l'émotion extrême que souleva en France, en Europe et dans le monde entier la nouvelle de cette abominable série de forfaits. D'un coup, car 2 jours plus tard l'affaire du testament de Cosmo Burlington était publiée, d'un coup c'était 4 crimes que l'on apprenait. La même personne, en toute certitude, avait frappé Cosmo Burlington, l'inspecteur Véraud, l'ingénieur Fauville et son fils Edmond. La même personne avait fait l'identique et sinistre morsure, laissant contre elle, par une étourderie qui semblait la revanche du destin, la preuve la plus impressionnante et la plus accusatrice, la preuve qui donnait aux foules comme le frisson de l'épouvantable réalité, laissant contre elle l'empreinte même de ses dents, les dents du tigre. Et au milieu de ce carnage, à l'instant le plus tragique de la funèbre tragédie, voici que la plus étrange figure surgissait de l'ombre. Voici qu'une sorte d'aventurier héroïque, surprenant d'intelligence et de clairvoyance, dénouait en quelques heures une partie des fils embrouillés de l'intrigue, pressentait l'assassinat de Cosmo Burlington, annonçait l'assassinat de l'inspecteur Véraud, prenait en main la conduite de l'enquête, livrait à la justice la créature monstrueuse dont les belles dents blanches s'adaptaient aux empreintes comme des pierres précieuses aux alvéoles de leur monture, touchait le lendemain de ses exploits un chèque d'1 million et finalement se trouvait le bénéficiaire probable d'une fortune prodigieuse. Et voilà qu'Arsène Lupin ressuscitait. Car la foule ne s'y trompa pas, et grâce à une intuition miraculeuse, avant qu'un examen attentif des événements ne donnât quelque crédit à l'hypothèse de cette résurrection, elle proclama « Don Luis Perena, mais c'est Arsène Lupin !»« Mais il est mort !» objectèrent les incrédules. À quoi l'on répondit « Oui, on a retrouvé, sous les décombres, encore fumant d'un petit chalet situé près de la frontière luxembourgeoise, le cadavre de Dolores Kesselbach et le cadavre d'un homme que la police reconnut comme étant Arsène Lupin. Mais tout prouve que la mise en scène fut machinée par Lupin, qui voulait, pour des raisons secrètes, que l'on crût à sa mort. Et tout prouve que la police accepta et rendit légale cette mort pour le seul motif qu'elle désirait se débarrasser de son éternel adversaire. Comme indication, il y a les confidences de Valenglay, qui était déjà président du Conseil à cette époque. Et il y a l'incident mystérieux de l'île de Capri, où l'empereur d'Allemagne, au moment d'être enseveli sous un éboulement, aurait été sauvé par un ermite, lequel, selon la version allemande, n'était autre qu'Arsène Lupin. Là-dessus, nouvelle objection. Soit, mais lisez les feuilles de l'époque. 10 minutes plus tard, cet ermite se jetait du haut du promontoire de Tibère. Et nouvelle réponse. En effet, mais le corps ne fut pas retrouvé. Et justement, il est notoire qu'un navire recueillit en mer, dans ses parages, un homme qui lui faisait des signaux, et que ce navire se dirigeait vers Alger. Or, comparez les dates et notez les coïncidences. Quelques jours après l'arrivée du bateau à Alger, le nommé Don Luis Perena, qui nous occupe aujourd'hui, s'engageait à Sidi Bel Abbès dans la Légion étrangère. Bien entendu, la polémique engagée par les journaux à ce sujet fut discrète. On craignait le personnage, et les reporters gardaient une certaine réserve dans leurs articles, évitant d'affirmer trop catégoriquement ce qu'il pouvait y avoir de Lupin sous le masque de Perenna. Mais sur le chapitre du légionnaire, sur son séjour au Maroc, ils prirent leur revanche et s'en donnèrent à cœur joie. Le commandant d'Astrignac avait parlé. D'autres officiers et d'autres compagnons de Perlenna relatèrent ce qu'ils avaient vu. On publia les rapports et les ordres du jour qui le concernaient. Et ce que l'on appela l'épopée du héros se constitua en une sorte de livre d'or dont chaque page racontait la plus folle et la plus invraisemblable des prouesses. À Mediouna, le 24 mars, l'adjudant Pollex inflige 4 jours de salle de police au légionnaire Perenna. Motif: malgré les ordres, est sorti du camp après l'appel du soir, a bousculé 2 sentinelles et n'est rentré que le lendemain à midi. Il rapportait le corps de son sergent tué au cours d'une embuscade. Et en marge, cette note du colonel: le colonel double la punition du légionnaire Perenna, le cite à l'ordre du jour et lui adresse ses félicitations et ses remerciements. Après le combat de Bercherid, le détachement de Fardet ayant été obligé de battre en retraite devant une harka de 400 Maures, le légionnaire Perenna demanda à couvrir la retraite en s'installant dans une casbah. « Combien vous faut-il d'hommes, Perenna ?»« Aucun, mon lieutenant. »« Quoi, vous n'avez pas la prétention de couvrir une retraite à vous tout seul ?» Mais quel plaisir y aurait-il à mourir, mon lieutenant, si d'autres mouraient avec moi ? Lors sur sa prière, on lui laissa 12 de fusils et on partagea avec lui ce qui restait de cartouches. Pour sa part, il en eut 75. Le détachement s'éloigna sans être inquiété davantage. Le lendemain, quand on put revenir avec des renforts, on surprit les Marocains à l'affût autour de la casbah. Ils n'osaient pas approcher. 75 des leurs jonchaient le sol. On les chassa. Dans la casbah, on trouva le légionnaire Perenna étendu. On le supposait mort. Il dormait. Il n'avait plus une seule cartouche. Seulement les 75 balles avaient porté. Mais ce qui frappa le plus l'imagination populaire fut le récit du commandant comte d'Astrignac relativement à la bataille de Dard-Bibar. Le commandant avoua que cette bataille, qui dégagea Fès au moment où l'on croyait tout perdu et qui fit tant de bruit en France, fut gagnée avant d'être livrée et qu'elle fut gagnée par Perenna tout seul. Dès l'aube, comme les tribus marocaines se préparaient à l'attaque, le légionnaire Perenna prit au lasso un cheval arabe qui galopait dans la plaine, sauta sur la bête, qui n'avait ni selle, ni bride, ni harnachement d'aucune sorte, et sans veste, sans képi, sans armes, la chemise blanche bouffant autour de son torse, la cigarette aux lèvres, les mains dans ses poches, il chargea. Il chargea droit vers l'ennemi, pénétra dans le camp, le traversa au galop, fit des évolutions au milieu des tentes et revint par l'endroit même où il avait pénétré. Cette course à la mort, vraiment inconcevable, répandit parmi les Marocains une telle impression de stupeur que leur attaque fut molle et la bataille gagnée sans résistance. Ainsi se forma, et combien d'autres traits de bravoure la renforcèrent, la légende héroïque de Perenna. Elle mettait en relief l'énergie surhumaine, la témérité prodigieuse, la fantaisie étourdissante, l'esprit d'aventure, l'adresse physique et le sang-froid d'un personnage singulièrement mystérieux qu'il était difficile de ne pas confondre avec Arsène Lupin, mais un Arsène Lupin nouveau, plus grand, ennobli par ses exploits, idéalisé et purifié. Un matin, 15 jours après le double assassinat du boulevard Suchet, cet homme extraordinaire qui suscitait une curiosité si ardente et de qui l'on parlait de tous côtés comme d'un être fabuleux, en quelque sorte irréel, Don Luis Perenna, s'habilla et fit le tour de son hôtel. C'était une confortable et spacieuse construction du XVIIIe siècle, situé à l'entrée du faubourg Saint-Germain, sur la petite place du Palais Bourbon, et qu'il avait acheté, toute meublée, à un riche Roumain, le comte Malonesco, gardant pour son usage et pour son service les chevaux, les voitures, les automobiles, les 8 domestiques, et conservant même la secrétaire du comte, Mademoiselle Levasseur, qui se chargeait de diriger le personnel, de recevoir et déconduire les visiteurs, journalistes, importuns ou marchands de bibelots, attirés par le luxe de la maison et la réputation de son nouveau propriétaire. Ayant terminé l'inspection des écuries et du garage, il traversa la cour d'honneur, remonta dans son cabinet de travail, entr'ouvrit une des fenêtres et leva la tête. Au-dessus de lui, il y avait un miroir incliné, et ce miroir reflétait, par-dessus la cour et par-dessus le mur qui la fermait, tout un côté de la place du Palais Bourbon. « Zut !» dit-il, « Oh, ces policiers de malheur sont encore là. Ah, voilà 2 semaines que cela dure, mais je commence à en avoir assez d'une telle surveillance. » De mauvaise humeur, il se mit à parcourir son courrier, déchirant, après les avoir lus, les lettres qui le concernaient personnellement, annotant les autres, demandes de secours, sollicitations d'entrevue, etc. Quand il eut fini, il sonna. « Priez Mademoiselle Levasseur de m'apporter les journaux. » Elle servait naguère de lectrice et de secrétaire au comte Roumain, et Perenna l'avait habituée à lire dans les journaux tout ce qui le concernait et à lui rendre chaque matin un compte exact de l'instruction dirigée contre Madame Fauville. Toujours vêtue d'une robe noire, très élégante de taille et de tournure, elle lui était sympathique. Elle avait un air de grande dignité, une physionomie grave, réfléchie, au travers de laquelle il était impossible de pénétrer jusqu'au secret de l'âme, et qu'eût paru austère, si des boucles de cheveux blonds, rebelles à toute discipline, ne l'eussent encadré d'une auréole de lumière et de gaieté. La voix avait un timbre musical et doux que Perenna aimait entendre, et, un peu intrigué par la réserve même que gardait Mademoiselle Levasseur, il se demandait ce qu'elle pouvait penser de lui, de son existence, ce que les journaux racontaient sur son mystérieux passé. « Rien de nouveau ?» dit-il, tout en parcourant les titres des articles, « Le bolchevisme en Hongrie, les prétentions de l'Allemagne. » Elle lut les informations relatives à Madame Fauville et dont Louis put voir que de ce côté, l'instruction n'avançait guère. Marie-Anne Fauville ne se départait pas de son système, pleurant, s'indignant et affectant une entière ignorance des faits sur lesquels on la questionnait. « Et c'est absurde, » pensa-t-il à haute voix, « je n'ai jamais vu personne se défendre d'une façon aussi maladroite. » Mais cependant, si elle est innocente, c'était la première fois que Mademoiselle Levasseur formulait une opinion, ou plutôt une remarque, sur cette affaire. Don Luis la regarda très étonné. « Vous la croyez donc innocente, mademoiselle ?» Elle sembla prête à répondre et à expliquer le sens de son interruption. On eût dit qu'elle dénouait son masque d'impassibilité et que, sous la poussée des sentiments qui la remuaient, sa figure allait prendre une expression plus animée. Mais, par un effort visible, elle se contint et murmura « Oh, je ne sais pas, je n'ai aucun avis. » « Peut-être, dit-il en l'examinant avec curiosité, mais vous avez un doute. Un doute qui serait permis s'il n'y avait pas les empreintes laissées par la morsure même de Madame Fauville. Ces empreintes-là, voyez-vous, c'est plus qu'une signature, plus qu'un aveu de culpabilité. Et tant qu'elle n'aura pas donné là-dessus une explication satisfaisante, mais pas plus là-dessus que sur les autres choses, Marie-Anne Fauville ne donnait la moindre explication. Elle demeurait impénétrable. D'autre part, la police ne réussissait pas à découvrir son complice ou ses complices, ni cet homme à la canne d'ébène et au lorgnon d'écaille dont le garçon du café du Pont-Neuf avait donné le signalement à Mazeroux et dont le rôle semblait singulièrement suspect. Bref, aucune lueur ne s'élevait du fond des ténèbres. On recherchait également en vain les traces de ce Victor, le cousin germain des sœurs Roussel, lequel, à défaut d'héritier direct, eût touché l'héritage Mornington. « C'est tout ?» fit Perrena. « Non, » dit Mademoiselle Levasseur. « Il y a dans l'Écho de France un article qui se rapporte à moi. Je suppose, monsieur, il est intitulé « Pourquoi ne l'arrête-t-on pas ?»« Ah, cela me regarde, » dit-il en riant. Il prit le journal et lut. Pourquoi ne l'arrête-t-on pas? Pourquoi prolonger, à l'encontre de toute logique, une situation anormale qui remplit de stupeur les honnêtes gens? C'est une question que tout le monde se pose et à laquelle le hasard de nos investigations nous permet de donner l'exacte réponse. Un an après la mort simulée d'Arsène Lupin, la justice ayant découvert ou cru découvrir qu'Arsène Lupin n'était autre de son vrai nom que le sieur Floriani, né à Blois et disparu, a fait inscrire sur les registres de l'état civil, à la page qui concernait le sieur Floriani, la mention « décédé », suivie de ces mots « sous le nom d'Arsène Lupin ». Par conséquent, pour ressusciter Arsène Lupin, il ne faudrait pas seulement avoir la preuve irréfutable de son existence, ce qui ne serait pas impossible, mais il faudrait mettre en jeu les rouages administratifs les plus compliqués et obtenir un décret du Conseil d'État. Or, il paraîtrait que M. Valenglay, président du Conseil, d'accord avec le préfet de police, s'oppose à toute enquête trop minutieuse susceptible de déchaîner un scandale dont on s'effraie en haut lieu. Ressusciter Arsène Lupin, recommencer la lutte avec ce damné personnage, risquer encore la défaite et le ridicule, non, 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 mille fois non. Et c'est ainsi qu'il arrive cette chose inouïe, inadmissible, inimaginable, scandaleuse, qu'Arsène Lupin, l'ancien voleur, le récidiviste impénitent, le roi des bandits, l'empereur de la cabriole et de l'escroquerie, qu'Arsène Lupin peut aujourd'hui, non pas clandestinement, mais au vu et au su du monde entier, poursuivre l'œuvre la plus formidable qu'il ait encore entreprise, habiter publiquement sous un nom qui n'est pas le sien, mais qu'il a fait en sorte qu'on ne lui contestât pas, supprimer impunément 4 personnes qui le gênaient, faire jeter en prison une femme innocente contre laquelle il a lui-même accumulé les preuves les plus mensongères, et en fin de compte, malgré la révolte du bon sens et grâce à des complicités inavouables, toucher les 200 millions de l'héritage Mornington. Voilà l'ignominieuse vérité. Il était bon qu'elle fût dite. Espérons qu'une fois révélée, elle influera sur la conduite des événements. Elle influera tout au moins sur la conduite de l'imbécile qui a écrit cet article, ricana Don Luis. Il congédia Mademoiselle Levasseur et demanda le commandant d'Astrillac au téléphone. « C'est vous, mon commandant ?»« Oui, vous avez lu l'article de l'Écho de France ?»« Oui. »« Cela vous ennuierait-il beaucoup de demander une réparation par les armes, ce monsieur ?»« Oh, un duel !»« Mais il le faut, mon commandant. Tous ces artistes-là m'embêtent avec leurs élucubrations. Il est nécessaire de leur mettre un baillon. » Oh, celui-là paiera pour les autres. Ma foi, si vous tenez beaucoup. Mais j'y tiens énormément. Les pourparlers furent immédiats. Le directeur de l'Écho de France déclara que, bien que l'article déposé à son journal, sans signature et sous forme dactylographique, eût été publié à son insu, il en prenait l'entière responsabilité. Le même jour, à 3 heures, Don Luis Perenna, accompagné du commandant d'Astrignac, d'un autre officier et d'un docteur, quittait dans son automobile l'hôtel de la place du Palais Bourbon et suivi de près par un taxi où s'entassaient les agents de la sûreté chargés de le surveiller, arrivait au Parc des Princes. En attendant l'adversaire, le comte d'Astrignac emmena Don Luis à l'écart. « Mon cher Perenna, je ne vous demande rien, mais qu'y a-t-il de vrai dans tout ce que l'on publie à votre égard? Mais quel est votre véritable nom? Bon, cela m'est égal, pour moi vous êtes le légionnaire Perenna et ça suffit. Votre passé commence au Maroc, quant à l'avenir, je sais que quoi qu'il advienne et quelles que soient les tentations, vous n'aurez d'autre but que de venger Cosmo Mornington et de protéger ses héritiers. Seulement, il y a une chose qui me tracasse. Parlez, mon commandant. Donnez-moi votre parole que vous ne tuerez pas cet homme. 2 mois de lit, mon commandant, ça vous va? Bon, c'est trop, 15 jours. Oh, le juger. Les deux adversaires se mirent en ligne. À la seconde reprise, le directeur de l'Écho de France s'écroula, touché à la poitrine. « Ah, c'est mal, Perenna, » grommela le comte d'Astrignac. « Vous m'aviez promis. »« J'ai promis, j'ai tenu mon commandement. » Cependant, les docteurs examinaient le blessé. L'un d'eux se releva au bout d'un instant et dit « Oh, ce sera rien. 3 semaines de repos, tout au plus. Seulement 1 centimètre de plus et ça y était. » « Oui, mais le centimètre n'y est pas, » murmura Perenna. Toujours suivi par l'automobile des policiers, Don Luis retourna au faubourg Saint-Germain, et c'est alors qu'il se produisit un incident qui devait l'intriguer singulièrement et jeter sur l'article de l'Écho de France un jour vraiment étrange. Dans la cour de son hôtel, il aperçut 2 petites chiennes lesquelles appartenaient au cocher et se tenaient généralement à l'écurie. Elles jouaient alors avec une pelote de ficelle rouge qui s'accrochait un peu partout, aux marges du perron, aux vases de fleurs. À la fin, le bouchon de papier autour duquel la ficelle était enroulée apparut. Don Luis se passait à cet instant. Machinalement, son regard ayant discerné des traces d'écriture sur le papier, il le rabassa et le déplia. Il tressaillit. Tout de suite, il avait reconnu les premières lignes de l'article inséré dans l'Écho de France. Et l'article s'y trouvait, intégralement écrit à la plume, sur du papier quadrillé avec des ratures, des phrases ajoutées, biffées, recommencées. Il appela le cocher et lui demanda « D'où vient donc cette pelote de ficelle ?»« Oh, cette pelote, monsieur, mais de la sellerie, je crois. Oh, c'est cette diablesse du Mirza qui l'aura. Et quand avez-vous enroulé la ficelle sur le papier ?»« Hier soir, monsieur. »« Ah, hier soir. Et d'où provient ce papier ?» « Ma foi, monsieur, je ne sais pas trop. J'avais besoin de quelque chose pour ma ficelle. J'ai pris ça derrière la remise, là où on jette tous les chiffons de la maison, en attendant qu'on les porte dans la rue, le soir. » Don Luis poursuivit ses investigations. Il questionna, ou il pria, Madame le Levasseur, de questionner les autres domestiques. Ils ne découvrirent rien, mais un fait demeurait acquis. L'article de l'Écho de France avait été écrit, le brouillon ramassé en faisait foi, par quelqu'un qui habitait la maison ou qui entretenait des relations avec un des habitants de la maison. L'ennemi était dans la place, mais quel ennemi? Et que voulait-il? Simplement l'arrestation de Perenna? Toute cette fin d'après-midi, Don Luis resta si soucieux, tourmenté par le mystère qui l'entourait, exaspéré par son inaction et surtout par cette menace d'arrestation qui certes ne l'inquiétait pas mais qui paralysait ses mouvements. Aussi, quand on lui annonça vers 10 heures qu'un individu qui se présentait sous le nom d'Alexandre insistait pour le voir, quand il eut fait entrer cet individu et qu'il se trouva en face de Mazrou, Madame Azrou, travestie, enfouie sous un vieux manteau méconnaissable, se jeta-t-il sur lui comme sur une proie et le bousculant, le secouant. « Ah, enfin, c'est toi, hein. Je te l'avais dit. Vous n'en sortez pas, la préfecture, et tu viens me chercher. Avoue-le donc, triple buse. Mais oui, tu viens me chercher. Ah, elle est rigolote, celle-là. Morbleu, je savais bien que vous n'auriez pas le culot de m'arrêter et que le préfet de police se calmerait un peu les ardeurs intempestives de ce sacré Weber. D'abord, est-ce qu'on arrête un homme dont on a besoin ? Va, dégoise, Dieu, que t'as l'air abruti. Mais réponds donc. Où en êtes-vous ? Allez vite, parle. Je vais vous régler ça en 5 secs. Jette-moi seulement 20 mots sur votre enquête et je vous la fais aboutir d'un coup de bistouri. Montre en main 2 minutes, tu dis ? Patron, bredouilla Mazerou interloqué. Quoi, alors faut arracher les paroles ? Ah ben allons-y, j'opère. Il s'agit de l'homme à la canne d'ébène, n'est-ce pas ? De celui qu'on a vu au café du Pont-Neuf, le jour où l'inspecteur Véraud a été assassiné. Oui, en effet. Vous avez retrouvé ses traces ? Oui, eh bien, bavarde, voyons. Ben voilà, patron. Il n'y a pas que le garçon de café qui l'avait remarqué. Il y a aussi un autre consommateur, et cet autre consommateur, que j'ai fini par découvrir, était sorti du café en même temps que notre homme, et dehors l'avait entendu demander à un passant « La plus proche station du métro pour aller à Neuilly ?»« Oh, excellent cela ! Et dans Neuilly, à force d'interroger de droite et de gauche, vous avez déniché l'artiste ?» « Et même appris son nom, patron, Hubert Lautier, avenue du Roule. Seulement, il a décampé de là il y a 6 mois, laissant son mobilier et n'emportant que 2 malles. Mais à la poste, ben nous avons été à la poste. Un des employés a reconnu le signalement qu'on lui a fourni. Notre homme vient tous les 8 ou 10 jours chercher son courrier, qui d'ailleurs est très peu important, 1 lettre ou 2. Il n'est pas venu depuis quelque temps. Et ce courrier est sous son nom ? Non, sous des initiales. On a pu se les rappeler ? Oui, BRW8. C'est tout ? De mon côté, absolument tout. Mais un de mes collègues a pu établir, d'après les dépositions de 2 agents de police, qu'un individu portant une canne d'ébène, un manche d'argent et un binocle d'écaille est sorti le soir du double assassinat de la garde Auteuil vers 11h15 et s'est dirigé vers le Ranelagh. Rappelez-vous la présence de Madame Fauville dans ce quartier à la même heure. Et rappelez-vous que le crime fut commis un peu avant minuit. Alors j'en conclue. Allez, assez, file. Mais au galop! Alors, on ne se revoit plus. Si, rendez-vous dans 1 demi-heure devant le domicile de notre homme. Mais quel homme ? Mais le complice de Marie-Anne Fauville. Mais vous ne connaissez pas son adresse. Mais c'est toi-même qui me l'a donné, boulevard Richard Vallas, numéro 8. Va, allez, ne prends pas cette tête d'idiot. Il le fit pirouetter, le poussa par les épaules jusqu'à la porte et le remit tout ahuri aux mains d'un domestique. Lui-même sortait quelques minutes plus tard, entraînant sur ses pas les policiers attachés à sa personne, les laissait de planton devant un immeuble à double issue et se faisait conduire à Neuilly en automobile. Il suivit à pied l'avenue de Madrid et rejoignit le boulevard Richard Vallas en vue du bois de Boulogne. Mazerou l'attendait là, devant une petite maison qui dressait ses 3 étages au fond d'une cour que bordaient les murs très hauts de la propriété voisine. « C'est bien le numéro 8 ?»« Oui, patron, mais vous allez m'expliquer une seconde, mon vieux, que je reprenne mon souffle. » Il aspira largement quelques bouffées d'air. « Oh, Dieu, que c'est bon d'agir ainsi, » dit-il. Mais je me rouillais, vrai, et quel plaisir de poursuivre ces bandits. Alors, tu veux que je t'explique ? Il passa son bras sous celui du brigadier. Écoute, Alexandre, et profite. Quand une personne choisit des initiales quelconques pour son adresse de poste restante, dis-toi bien qu'elle ne choisit pas au hasard, mais presque toujours de façon que les lettres aient une signification pour la personne en correspondance avec elle. Signification qui permettra à cette autre personne de se rappeler facilement l'adresse qu'on lui donne. Et en l'occurrence, Mazrou, un homme comme moi, qui connaît Neuilly et les alentours du bois, est aussitôt frappé par ces trois lettres BRW, et surtout par cette lettre étrangère W, lettre étrangère, lettre anglaise. De sorte que, dans mon esprit, devant mes yeux, instantanément, comme une hallucination, j'ai vu les trois lettres à leur place logique d'initiale, à la tête des mots qu'elles appellent et qu'elles nécessitent. J'ai vu le B du boulevard, j'ai vu l'R et le W anglais de Richard et de Wallace, et je suis venu vers le boulevard Richard Wallace. Et voilà pourquoi, mon cher monsieur, votre fille est sourde. Mazerou sembla quelque peu sceptique. Et vous croyez, patron? Oh, je ne crois rien. Je cherche, je construis une hypothèse sur la première base venue, une hypothèse vraisemblable. Et je me dis, oh, je me dis, eh bien, je me dis, Mazerou, que ce petit coin est diablement mystérieux et que cette maison. Ah, chut, écoute. Il repoussa Mazrou dans un renfoncement d'ombre. Ils avaient entendu du bruit, le claquement d'une porte. De fait, des pas traversèrent la cour devant la maison. La serrure de la grille extérieure grinça. Quelqu'un parut que la lumière d'un réverbère éclaira en plein visage. Cretonnerre, mâcha Mazrou, mais c'est lui! Oh oui, il me semble, en effet. Mais c'est lui, patron. Regardez la canne noire et le brillant de la poignée. Et puis vous avez vu l'orgnon et la barbe. Oh, quel type vous êtes, patron. Allez, calme-toi et suivons-le. L'individu avait traversé le boulevard Richard Wallace et tournait sur le boulevard Maillot. Il marchait assez vite, la tête haute, en faisant tournoyer sa canne d'un geste allègre. Il alluma une cigarette. À l'extrémité du boulevard Maillot, l'homme passa l'octroi et pénétra dans Paris. La station du chemin de fer de Ceinture était proche. Il se dirigea vers elle et, toujours suivi, prit un train qui le conduisait à Auteuil. Bizarre, dit Mazrou, il refait ce qu'il a fait il y a 15 jours. C'est là qu'on l'a aperçu. L'individu longea dès lors les fortifications et en un quart d'heure il atteignit le boulevard Suchet et presque aussitôt l'hôtel où l'ingénieur Fauville et son fils avaient été assassinés. En face de cet hôtel, il monta sur les fortifications et il resta là quelques minutes, immobile, tourné vers la façade. Puis, continuant sa route, il gagna la Muette, s'engagea dans les ténèbres du bois de Boulogne. Allez, à l'œuvre et hardiment, fit Don Louis qui pressa le pas. Mazerou le retint. Mais que voulez-vous dire, patron? Eh bien, sautons-lui à la gorge, nous sommes deux et le moment est propice. Comment, mais c'est impossible. Impossible est ta peur, alors, sois, laisse-moi faire. Mais voyons pas trop, vous n'y pensez pas. Mais pourquoi n'y penserais-je pas? Parce qu'on ne peut pas arrêter un homme sans motif. Sans motif, un bandit de son espèce, un assassin? Mais qu'est-ce qu'il te faut donc? Ben, en l'absence d'un cas de force majeure, d'un flagrant délit, il me faut quelque chose que je n'ai pas. Quoi? Un mandat, je n'ai pas de mandat. Et l'accent de Mazrou était si convaincu et sa réponse parut si comique à Don Luis Perenna qu'il éclata de rire. T'as pas de mandat, pauvre petit, ben, tu vas voir si j'en ai besoin, moi, d'un mandat. Non, je ne verrai rien du tout, s'écria Mazrou en s'accrochant au bras de son compagnon. Vous ne toucherez pas à cet individu.
Quoi, c'est ta mère?
Voyons, patron. Mais triple honnête homme, articula donc lui, exaspéré. Si nous laissons échapper l'occasion, la retrouverons-nous.
Facilement, il rentre chez lui, je préviens le commissaire de police, on téléphone à la préfecture et demain matin.
Et si l'oiseau s'est envolé?
Mais je n'ai pas de mandat.
Veux-tu que je t'en signe un, idiot?
Mais, dont lui domina sa colère. Il sentait bien que tous ses arguments se briseraient contre l'obstination du brigadier et que Mazrou irait au besoin jusqu'à défendre l'ennemi contre lui. Il formula simplement d'un ton sentencieux.
« Ben imbécile et toi, ça fait deux imbéciles. Il y a autant d'imbéciles qu'il y a de gens qui veulent faire de la police avec des chiffons de papier, des signatures, des mandats et d'autres calembres d'aine. La police, mon petit, ça se fait avec le poing. Quand l'ennemi est là, on cogne, sinon on risque de cogner dans le vide. Allez là-dessus, bonne nuit. Je vais me coucher. Téléphone-moi quand tout sera fini. »
Il rentra chez lui, furieux, excédé d'une aventure où il n'avait pas ses coudées franches, et où il fallait se soumettre à la volonté, ou plutôt à la mollesse des autres. Mais le lendemain matin, lorsqu'il se réveilla, le désir de voir la police aux prises avec l'homme à la canne d'ébène, et surtout le sentiment que son concours ne serait pas inutile, le poussèrent à s'habiller plus vite. «
Si je n'arrive pas à la rescousse, se disait-il, ils vont se laisser rouler. Ils sont pas de taille à soutenir un tel combat. »
Justement, Mazrou le demanda au téléphone. Il se précipita vers une petite cabine que son prédécesseur avait fait établir au premier étage, dans un réduit obscur qui ne communiquait qu'avec son bureau, et il alluma l'électricité.
« C'est toi, Alexandre ?»«
Oui, patron. » Je suis allé chez un marchand de vin, près de la maison du boulevard Richard Vallas.
Et notre homme?
L'oiseau est au nid, mais il était temps.
Ah,
oui, sa valise est faite. Il doit partir ce matin en voyage.
Mais comment le sait-on?
Par la femme de ménage, elle vient d'entrer chez lui et il nous ouvrira.
Il habite seul?
Oui, cette femme lui prépare ses repas et s'en va le soir. Personne ne vient jamais, sauf une dame voilée qui lui a rendu 3 visites depuis qu'il est ici. La femme de ménage pourrait pas la reconnaître. Lui, c'est un savant, dit-elle, qui passe son temps à lire et à travailler.
Et toi, Mandard?
Oui, on va opérer.
J'accours.
Impossible, c'est le sous-chef Weber qui nous commande. « Ah, dites donc, vous savez pas la nouvelle à propos de Madame Fauville ?»«
À propos de Madame Fauville ?»«
Oui, elle a voulu se tuer cette nuit. »«
Hein, elle a voulu se tuer ?»
Perenna avait jeté une exclamation de stupeur, et il fut très étonné d'entendre, presque en même temps, un autre cri comme un écho très proche. Sans lâcher le récepteur, il se retourna. Mademoiselle Levasseur était dans le cabinet de travail, à quelques pas de lui, la figure contractée, livide. Leurs regards se rencontrèrent. Il fut sur le point de l'interroger, mais elle s'éloigna. « Mais pourquoi diable m'écoutait-elle ? » se demanda Don Luis. « Et pourquoi cet air d'épouvante ?»
Mazerou continuait cependant.
Elle l'avait bien dit qu'elle essaierait de se tuer, mais il lui a fallu un rude courage.
Perenna reprit. Mais comment?
Je vous raconterai cela, on m'appelle, mais surtout, ne venez pas, patron.
Si, répondit-il nettement, je viens. Après tout, c'est bien le moins que j'assiste à la capture du gibier, puisque c'est moi qui ai découvert son gîte. Mais ne crains rien, oh, je resterai dans la coulisse.
« Alors dépêchez-vous, patron, on donne l'assaut.
J'arrive. »
Il raccrocha vivement le récepteur et fit demi-tour sur lui-même pour sortir de la cabine. Un mouvement de recul le rejeta jusqu'au mur du fond. À l'instant précis où il allait franchir le seuil, quelque chose s'était déclenché au-dessus de sa tête et il n'avait eu que le temps de bondir en arrière pour n'être pas atteint par un rideau de fer qui tomba devant lui avec une violence terrible. Une seconde de plus et la masse énorme l'écrasait. Il en sentit le frôlement contre sa main. Et jamais peut-être il n'éprouva de façon plus intense l'angoisse du danger. Après un moment de véritable frayeur où il resta comme pétrifié, le cerveau en désordre, il reprit son sang-froid et se jeta sur l'obstacle. Mais tout de suite, l'obstacle lui parut infranchissable. C'était un lourd panneau de métal, non pas fait de lamelles ou de pièces rattachées les unes aux autres, mais formé d'un seul bloc, massif, puissant, rigide, et que le temps avait revêtu de sa patine luisante, à peine obscurcie, çà et là par des taches de rouille. De droite et de gauche, en haut et en bas, les bords du panneau s'enfonçaient dans une rainure étroite qui les recouvrait hermétiquement. Il était prisonnier. À coups de poing, avec une rage soudaine, il frappa, se rappelant la présence de Mademoiselle Levasseur dans le cabinet de travail. Si elle n'avait pas encore quitté la pièce, sûrement elle ne pouvait pas l'avoir encore quittée lorsque la chose s'était produite, elle entendrait le bruit. Elle devait l'entendre. Elle allait revenir sur ses pas, elle allait donner l'alarme et le secourir. Il écouta. Rien. Il appela. Aucune réponse. Sa voix se heurtait au mur et au plafond de la cabine où il était enfermé. Il avait l'impression que l'hôtel entier, par-delà les salons, les escaliers et les vestibules, demeurait sourd à son appel. Pourtant, Mademoiselle Levasseur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Murmura-t-il. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Et immobile maintenant, taciturne, il pensait de nouveau à l'étrange attitude de la jeune fille, à son visage bouleversé, à ses yeux égarés. Et il se demandait aussi par quel hasard s'était déclenché le mécanisme invisible qui avait projeté sur lui, sournoisement et implacablement, le redoutable rideau de fer.